Les par actualités. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars et je suis très heureuse de vous présenter les paractualités du jour. C'est Clotilde Saïd qui vous parle sur les ondes de Canal M. Et les titres: traitement des personnes âgées, Madame Marguerite Blais se plaint auprès du gouvernement. Manque d'action et de services dans le réseau public pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Une entrevue avec Égide Royer, psychologue et éminent spécialiste en sciences de l'éducation, au sujet de la conférence qu'elle donnera au 42e congrès international annuel de l'Institut TA. Quatre organismes de la région de Coaticook se partagent 70 000 $ pour améliorer leur accessibilité et un guide et un portail web sont maintenant accessibles aux familles d'enfants handicapés. Des personnes aveugles foulent les planches pour faire du théâtre dans la région de Moncton. La création s'appelle « Grandir dans la différence ». Et on évoquera aussi des buffles en Thaïlande dont on se sert comme thérapie pour des enfants autistes. Une deuxième entrevue aujourd'hui, toujours autour du 42e congrès international annuel de l'Institut TA à Montréal, parce que c'est un événement. Et nous allons cette fois-ci recevoir Brigitte Stanquet, qui devrait répondre à mes questions. Alors, dans une lettre qu'elle signe avec le porte-parole en matière de santé de la CAQ, François Paradis, nous écrit Denis Lessard ce matin dans la presse, « Madame Blais signale que bien qu'il contienne des mesures intéressantes, ce projet de loi demeure incomplet car il ne contient aucune disposition pour obliger la dénonciation de la maltraitance. Ce serait pourtant un outil de haut niveau avec un effet dissuasif puissant. » Selon un sondage, 93% des Québécois sont en faveur de cette mesure, pourtant proposée en 2013 par le Parti libéral du Québec. Malheureusement, l'actuel gouvernement ne veut plus inclure cette disposition dans son projet de loi. L'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta ont adopté des lois fortes pour protéger leurs aînés. Le Québec doit s'inspirer des meilleures pratiques de ses voisins chez nous au Canada, ajoutent les auteurs Mme Blais et M. Paradis. Ce n'est pas une déclaration politique, mais une lettre citoyenne, explique celle qui a été responsable des aînés au gouvernement de 2007 à 2012. Pas question pour elle de jouer à la belle-mère, mais cette obligation de signaler les cas de maltraitance observés faisait partie du projet de loi 399 que Mme Blais avait déposé comme députée de l'opposition. Le caucus libéral était d'accord avec cela à l'époque. Cela avait été étudié avec Maître Gilles Ouimet, ex-bâtonnier qui était aussi député libéral à l'époque, a rappelé Mme Blais, jointe hier par la presse à sa résidence des Laurentides. « C'est étrange, dit-elle. On sanctionne la maltraitance à l'égard des animaux, mais pas celle envers nos aînés. En revanche, convient-elle, le projet de loi actuel prévoit des dispositions sur les caméras de surveillance dans les chambres, un phénomène qui n'était pas dans le débat public à l'époque. Le fait qu'elle ait co-signé une lettre avec la CAQ n'est pas le signe d'un éventuel retour en politique. » Assure-t-elle, à 68 ans avec 8 petits-enfants, elle apprécie un rythme de vie beaucoup moins trépidant, de dire Mme Blais. L'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement, l'ABDITED, réitère que le manque d'action et de services dans le réseau public pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille est une problématique sous-estimée qui perdure et qui empire. Les familles qui représentent l'ABDITED attendent que le gouvernement intervienne en prenant des engagements forts par la mise en place d'un véritable plan d'action et d'un investissement significatif en déficience intellectuelle. Depuis plus de 10 ans, ballottés d'une réforme à l'autre, les parents ne voient pas d'amélioration au niveau de l'offre et de la qualité des services, ni au niveau de la mise en œuvre de mesures concrètes pour améliorer le quotidien de leur enfant et le leur. La déficience intellectuelle est une condition permanente. Les personnes qui présentent ce diagnostic nécessitent de recevoir des services particuliers tout au long de leur vie. Or, sur le terrain, la seule ressource pour l'instant disponible et accessible qui répond en tout temps demeure encore les parents, la famille et les proches. Le réseau public réduit et efface peu à peu l'aide, le soutien et les services, faisant de la déficience intellectuelle l'enfant pauvre des programmes. « C'est cette semaine que va se dérouler le 42e congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage dans le cadre de ce congrès, d'ailleurs auquel est associée la radio Canal M. J'ai la chance ce matin de m'entretenir avec Égide Royer. Bonjour, Monsieur Royer.
Bonjour.
Monsieur Royer, vous êtes considéré comme une pointure dans le domaine de l'enseignement. Je peux même vous dire qu'il y a ici des gens, des bénévoles qui sont d'anciens enseignants, notamment des gens à la retraite qui ne jurent que par vous.
Ah,
ben, j'espère que ça vous fait plaisir.
J'essaie de faire mon possible déjà depuis quelques décennies,
oui. Oui, c'est ça. Et puis, M. Royer, vous allez donc participer à ce congrès annuel en présentant notamment une conférence, hein, c'est bien cela?
Oui, il y a un dîner-conférence et par la suite, en fin d'après-midi, une autre conférence que je vais donner sur un sujet le complémentaire.
Alors, je voudrais bien, moi, savoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les cinq fantastiques? Je pense que c'est sur ce sujet, entre autres, que devrait porter l'une de vos conférences.
Entre autres, de l'après-midi. Les cinq fantastiques, c'est que si on veut, et il y a un lien même avec la nouvelle précédente que vous avez mentionnée concernant les semaines avec un handicap.
Oui, absolument.
Regardez, Obama soulignait vaut mieux bâtir des enfants et des adolescents forts que de réparer des adultes brisés. Et ça, c'est la première. Fantastique. Et cette première idée-là va être en rapport au fait qu'on a absolument investir davantage au niveau de la prévention, de l'intervention précoce, dans le domaine qui nous intéresse, entre autres en lecture chez les petits, et entre autres par rapport à l'ensemble des jeunes qui ont des besoins particuliers. La deuxième était que la meilleure, au lieu d'expliquer l'échec scolaire par la pauvreté, essayons donc de combattre la pauvreté par la réussite scolaire. Et c'est pas simplement un jeu de mots. C'est l'idée que le meilleur antidote qu'on possède présentement, d'une manière même intergénérationnelle, là, que ce soit des parents vers les enfants et lorsque ces enfants-là eux-mêmes auront des enfants, c'est vraiment d'intervenir. L'éducation est le meilleur antidote qu'on a par rapport à la pauvreté, par rapport à la misère. Il va falloir que, comme société, on le reconnaisse aussi. Bien plus que le salaire minimum garanti, bien plus que l'ensemble de mesures qui sont dans le même important, la première est vraiment la réussite éducative. Et une troisième, qui est moins sexy un peu, mais qui est comme le soleil se lève à l'est, il y a une sur-représentation des garçons au niveau des élèves en difficulté au Québec. 65% de tous les jeunes dont on parle au Congrès sont des garçons. Et l'autre élément, c'est qu'il y a une sous-scolarisation des hommes au Québec. Que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, il y a un écart énorme qu'il va sûrement rattraper parce que les filles réussissent et diplôment beaucoup mieux que les garçons à l'école. Et ça, ça a un impact réel présentement, même au point de vue économique, mais surtout personnel.
Oui.
La quatrième grande vérité, c'est qu'en éducation, on attrape les mythes comme on attrape le rhume. Donc là, il va falloir qu'une fois pour toutes, on se sorte des auditifs individuels, qu'on se sorte du fait que les enfants n'utilisent que 10% de leur cerveau et que le fait de mélanger CB et CD, c'est un signe de dyslexie. Là, je peux vous en donner pour le restant de l'avant-midi.
Ah oui.
C'est fantastique. Donc, il y a un lien avec la conférence que je vais donner le midi. Il va falloir qu'on cesse d'improviser en éducation et qu'on colle la recherche et les pratiques probantes. Parce que là, ça commence à être...
Mais comment ça se fait qu'on n'avance pas dans le dossier de l'éducation? Puis j'allais dire, comme dans le dossier de la santé, d'ailleurs, en général. Où est-ce que ça fige, monsieur Royer?
C'est pire en éducation qu'en santé. Regardez, si je vous donnais... Si demain matin, je vous disais que le taux de mortalité infantile augmente au Québec... Écoutez, ça serait une catastrophe. Écoutez, il y aurait une mobilisation générale. Même, on a seulement quelques enfants qui meurent sans être vaccinés parce que les parents ont refusé le vaccin ou parce que l'école ne l'a pas offert, parce que l'hôpital ne l'a pas offert. Et là, ça serait terrible. Mais moi, je vous dis que le nombre d'élèves en difficulté au Québec, là, depuis 10 ans, est passé de 15% à 21%.
Ben, voyons donc.
Si je vous disais que le taux de diplomation des élèves en difficulté est de 31%, si vous allez au Massachusetts, il est de 68%. Si vous allez dans les États américains en général, il est de 60%. Écoutez, je ne vais pas vous ensevelir sous les chiffres. Je ne sais plus comment les présenter, mais ça relève carrément de la faute professionnelle globale que de laisser aller autant de jeunes en difficulté et surtout de les laisser aller vers le secondaire avec si peu d'habileté, entre autres en lecture. Et une des principales variables, un des principaux facteurs, c'est qu'on n'applique pas. Et c'est le gros changement qui est arrivé en Ontario depuis une quinzaine d'années, d'ailleurs. on n'applique pas ce qu'on connaît, qui est véritablement basé sur des données probantes. D'où mon exemple de rhume et de mythe.
Oui.
Si vous allez consulter votre cardiologue, là, votre cardiologue, normalement, ou votre dentiste, il y a des obligations de formation professionnelle et normalement, votre dentiste, votre cardiologue va être au fait des données ou des pratiques les plus récentes, non soutenues carrément par des données de recherche.
Oui.
Et c'est encore trop rare en éducation.
Oui.
Et l'éducation, c'est pas simplement une vocation, c'est une profession qui devrait, comme telle, devenir reconnue aussi comme une profession.
Bien sûr. Je voudrais, Monsieur Royer, rebondir sur une phrase que vous avez eue il y a à peu près une minute. On n'applique pas ce qu'on connaît.
On n'applique pas ce qu'on connaît des données probantes ou des pratiques exemplaires. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec des situations qui...
Avez-vous un exemple, s'il vous plaît, pour nous?
Regardez, le fait, je vous en ai un très, très concret. D'ailleurs,
Monique
Brodeur, la doyenne des facultés de sciences d'éducation, va revenir là-dessus durant le congrès.
Mm-hmm.
Le fait d'offrir la maternelle 4 ans à tous les jeunes du Québec... Et d'inclure dans cette maternelle 4 ans-là une forme d'enseignement ou de reconnaissance des lettres et sous forme de jeu, d'avoir un genre de littératie précoce qu'on développe chez les enfants de 4 ans. Ça, c'est comme le soleil se lève à l'est, on a des données probantes pour dire qu'il y a une plus-value.
Bien sûr.
Mais plus concrètement que ça, regardez, présentement au Québec, on offre la maternelle 4 ans au milieu défavorisé. En disant qu'il y a plus d'élèves vulnérables ou d'enfants vulnérables dans les milieux défavorisés, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que la majorité des 200 000 jeunes qui sont en difficulté dans les écoles du Québec n'habitent pas en milieu défavorisé. Regardez, est-ce que ça dépend de votre code postal ou de votre montant déclaré à l'impôt au 30 avril, le fait d'avoir un enfant qui a un trouble de l'autisme? D'avoir un enfant qui a un trouble d'articulation, est-ce que ça dépend de votre code postal que vous habitez un coin défavorisé? Ou est-ce que ça dépend de votre revenu familial? Non. La déficience intellectuelle dont on parlait tout à l'heure dans votre émission, est-ce que ça dépend du code postal?
Mais non.
Donc, en clair, là, on se retrouve dans une situation où, je reviens continuellement avec ça, c'est parce que c'est nos voisins, vous avez plus de chances de réussir à l'école si vous êtes en difficulté d'un côté de la rivière des Outaouais que de l'autre. Et on n'est pas du bon côté présentement. Les taux de diplomation présentement en Ontario sont d'environ 85-86%. Ils ont appliqué ce qu'on connaissait basé sur des données probantes, des meilleures façons d'intervenir. Ils ont un des 10 meilleurs systèmes éducatifs au monde. De notre côté, on traîne de la patte encore avec des taux de diplomation globalement au Québec, là, de 72-73%. Celui d'Ontario est de 85%. Celui des francophones ontariens est de 92%. Comprenez-vous que je ne sais plus comment le présenter. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'atmosphère dans la conférence que je vais donner sur l'heure du midi parce que je vais donner je vais poser la question et donner les critères d'évaluation. Est-ce que le ministère de l'Éducation aura la note de passage dans sa prochaine politique sur la réussite scolaire? Et je vais donner la grille de correction.
Écoutez, Égide Royer, je comprends pourquoi beaucoup de gens vous voient dans leur soupe, parce que ce que vous venez de nous dire est totalement déprimant, mais c'est en même temps très, très éclairant.
Oui,
la façon... comment vous me dites?
On sait quoi faire.
On sait quoi faire,
c'est ça. Je suis pas déprimé comme tel, un peu exaspéré, mais non déprimé.
Non. En tout cas, non, mais quand je dis déprimant, je veux dire que c'est dans le chiffre, quoi. Ça fait mal, quoi, de voir. Écoutez, je suis contente que vous vous adressiez à autant de monde et que vous soyez là quand même pour tirer constamment les sonnettes d'alarme et continuer de le faire. Égide Royer, merci beaucoup.
C'est plaisir.
Et puis donc, rappelons que votre conférence va se donner quel jour, à quelle heure et où?
Jeudi midi. Moi, je donne celle du jeudi midi. Le ministre va donner celle du vendredi midi.
OK, et ça se
passe... Il y a un lien entre les deux. De mon côté à moi, il y a un lien entre les deux.
Bon, et ça se passe à l'hôtel Westin, c'est bien ça, à Montréal.
C'est ça.
Merci, monsieur Royer, Gilles Royer.
Bien.
Bonne journée, au revoir. À Coaticook, grâce à une aide financière de 70 000 $, 4 organismes de la région pourront améliorer leur accessibilité envers leur clientèle à mobilité réduite. La ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, en a fait l'annonce vendredi après-midi. Ces fonds proviennent du Fonds pour l'accessibilité, lequel a été bonifié de plus de 4 millions de dollars par rapport à l'année dernière. La municipalité de Barnston West va mettre la main sur 30 000 dollars pour notamment l'installation d'un ascenseur et d'un monte-charge à l'intérieur du centre communautaire de Ways Mills. La fabrique Notre-Dame de l'Unité rénovera les salles de bain de la salle communautaire de l'église de Compton. Le centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook utilisera c'est un peu plus de 5 000 dollars pour l'installation de portes électriques et finalement, le centre funéraire coopératif de la région de Coaticook obtient presque 4 000 dollars pour l'installation d'un siège d'escalier. C'est très stimulant de voir que notre communauté fait des démarches actives pour améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens, mentionne Mme Bibeau. Et puis, une autre bonne nouvelle, un guide et un portail web sont maintenant accessibles aux familles d'enfants handicapés. On trouve cela dans le journal La Nouvelle Union, d'après un texte d'Alex Drouin. Il y a 3 ans que ce projet a vu le jour, lorsque 4 organismes de la région ont eu l'idée de venir en aide à ces familles. Le Centre de stimulation L'Envol, l'Association pour l'intégration sociale des Bois-Francs, Handicap Action Autonomie Bois-Francs et l'Amitant ont tous uni leurs efforts pour déposer le projet à la table d'enfance, jeunesse, famille, Arthabasca, érable. Et puis, il y a quelques mois, le centre de stimulation L'Envol, porteur du dossier, a déposé un projet à l'Office des personnes handicapées du Québec afin de créer ce portail web pour les familles de la région. Avec le portail, le côté éphémère d'un guide papier n'est plus un problème. Alors, ce guide renferme 360 pages. Ça, c'est le côté papier. Il a été imprimé en 600 exemplaires. Mais en ce qui concerne le portail web qui sera alimenté par L'Envol, il est divisé en 7 sections et prochainement, il sera même possible de communiquer avec l'un des intervenants afin d'avoir des réponses à certaines questions que peuvent se poser les parents. Alors, le portail est déjà en ligne au gardezlecap.ca. Je vous fais grâce de tout ce qui vient avant Gardez le Cap. Alors, gardezlecap.ca. Il nous semblait très utile de rester sur ce 42e congrès international annuel de l'Institut de TA, de troubles d'apprentissage. Déjà, je me suis adressée il y a quelques minutes à Égide Royer, qui en sera l'un des conférenciers. Je me tourne maintenant vers Mme Brigitte Stanquet, qui est orthophoniste et qui est aussi la présidente du 42e congrès de cet institut et professeure titulaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Stanquet.
Oui, bonjour.
Alors, écoutez, ça a été un réel plaisir déjà de m'adresser à M. Royer, qui a une vision très, très claire de la situation qui n'est pas forcément extrêmement brillante au Québec.
Effectivement.
On va dire ça comme ça, élégamment.
Mais, en fait, au moins, le congrès est là pour ça, pour faire avancer les choses.
Oui, exactement.
Alors, c'est positif.
Alors, à qui s'adresse-t-il exactement ce congrès?
Alors, le congrès s'adresse vraiment à toutes les personnes qui gravitent autour des enfants, des adultes qui présentent des troubles d'apprentissage. Donc, il y a alors tout le monde de l'éducation qui sont les enseignants, les professionnels, les directions d'école, les conseillers pédagogiques. On a aussi des directions, j'en ai parlé, et des employeurs aussi maintenant, parce que évidemment, ces personnes-là qui présentent un trouble d'apprentissage n'ont pas uniquement des difficultés à l'école, mais plus tard, quand ils ont un emploi, ben, ça peut aussi poser des difficultés. Donc, ça s'adresse aux employeurs. Mmh. Et finalement, aussi aux chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui viennent donner des conférences. Donc, c'est un lieu d'échange aussi pour les chercheurs.
Est-ce que des parents aussi seront là?
Ah oui, tout à fait. Parents aussi. Mais bon, en fait, je dirais que la majorité des participants sont bien sûr les enseignants.
Bon. Alors, quels seront les grands thèmes de ce congrès cette année, Mme Stanquet?
Alors, cette année, vraiment, on met l'accent sur la prévention, le dépistage et l'intervention précoce. Ça, c'est vraiment primordial parce que, donc, on sait que la recherche a montré que plus on prévient les difficultés et plus on intervient de façon précoce, plus on réduit les risques, les risques de difficultés d'apprentissage scolaire par la suite. On peut réduire de 50 à 80 %, ce qui est énorme. Donc, vraiment, le congrès va vraiment porté sur la prévention des difficultés d'intervention précoce. On va aussi parler beaucoup de la diversité linguistique qui peut poser un grand défi pour les enseignants, en fait. Et ce que le Congrès va essayer de au moins montrer, c'est que c'est pas parce que les enfants ne parlent pas le français comme langue maternelle qu'ils ne parviennent pas, qu'ils ont nécessairement des difficultés d'apprentissage, et qu'on peut aussi prévenir les difficultés chez ces élèves-là, en fait. Donc, ça, c'est bien.
En fait, ce qui rend peut-être la chose la plus difficile, souvent, c'est peut-être la proximité dans une même classe pour l'enseignant, quoi, qui est déjà à la tête de tellement de choses.
En fait, c'est la proximité peut-être du nombre d'enfants, qui ont différentes langues maternelles. Et je vous dirais aussi peut-être le fait que dans leur classe aussi, ces enseignants-là ont, en fait, plusieurs enfants qui présentent des difficultés, pas nécessairement d'apprentissage, mais entre autres des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est la diversité des apprenants que les enseignants dans leur classe qui posent vraiment un réel défi pour eux, là.
Alors, il va y avoir, je l'ai dit tantôt, on a parlé avec Égide Royer qui va donner non pas une, mais deux conférences. Il va y en avoir d'autres, et notamment celle du ministre, hein, qui va s'adresser à nous. Je voulais vous demander, avant que vous nous parliez de différentes conférences qui auront lieu dans le cadre de ce congrès annuel, quand on dit que le ministre sera là, on s'étonne que le gouvernement n'agisse pas un peu plus rapidement, hein, je pense qu'on est d'accord. Est-ce que, bon, lui va s'exprimer, mais est-ce qu'on aura l'occasion de lui poser des questions?
Alors, en fait, vous me l'apprenez presque, parce que je sais qu'il y avait des invités surprises, et donc je ne pensais pas que les noms de ces personnes-là étaient révélés. Donc, voilà, vous me dites.
Écoutez, moi, je l'ai, là, je l'ai sous mes yeux. Écoutez, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ben voilà. Et donc, oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il va y avoir des dîners réseautage avec, donc, normalement, on disait que c'était des invités surprises, mais qui ne sont plus une surprise maintenant.
Non.
Visiblement.
Ben non.
Et donc, on va pouvoir justement poser des questions aux ministres, donc aux invités surprises, sur les sujets d'actualité. Et ça, c'est ce qui est intéressant.
Ben oui.
Donc, on va avoir pendant 3 jours donc, des dîners réseautage comme ça.
Oui, parce qu'ils sont mieux d'être préparé quand même, parce que s'il y a des gens comme Égide Royer qui sont à la même table qu'eux, parce que tout à l'heure, Égide Royer m'a dit que lui, sa conférence avait lieu, je pense, jeudi, puis le lendemain, c'était le ministre, et il me dit, et les deux ont un profond rapport entre elles, je pense. Alors, voilà, donc je pense que... Alors, sinon, donc, conférence, mais il y aura aussi des formations, des ateliers
donc, oui, ben, il y a plusieurs conférences et il y a surtout cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 6 symposiums, donc où on va traiter vraiment des sujets beaucoup de façon plus approfondie pendant des journées complètes. Donc, 6 symposiums, dont des symposiums justement sur le dépistage, sur les maternelles 4 ans, en mathématiques et en fait aussi l'intervention précoce. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau. Et aussi un symposium qui va s'adresser à tout le milieu scolaire, mais anglophone. Justement, il y a beaucoup de... Dans les écoles anglophones, il y a beaucoup d'immersion française et ça peut aussi représenter un défi pour les enseignants. Donc là, il va y avoir vraiment un symposium qui va être axé sur l'immersion française dans les écoles anglophones.
Sans compter, hein, Mme Stanquet, évidemment, un salon d'exposants également à l'hôtel Westin à Montréal.
Tout à fait. Puis un salon d'exposants qui vaut vraiment le détour parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut vraiment... où on retrouve vraiment du matériel pour les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage, réunis vraiment, parce qu'il y a beaucoup par exemple, d'éditeurs qui ne vont pas nécessairement présenter leur matériel dans les librairies habituelles. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel, ça. Donc, c'est vraiment très riche.
Et nous serons là aussi, d'ailleurs, Canal M. Je pense qu'on fera partie de ce salon-là en tant que partenaire. On peut encore s'inscrire, Mme Stanquet?
Alors oui, on peut toujours s'inscrire et il faut se dépêcher parce que en fait, il y a quand même déjà plusieurs conférences qui affichent complètes.
Complet, oui.
Oui, oui. Alors voilà.
Alors on s'y prend comment? On s'inscrit par le site Instituta, c'est ça, .com.
Instituta. Oui, c'est ça, exactement.
C'est ça.
Congrès, et puis voilà, vous allez trouver Congrès
D'accord.
2017. Oui.
D'accord. Alors donc, je l'appelle pour les gens qui nous écouteraient peut-être, INSTITUTTA.com, qui nous écoutent sûrement, mais qui auraient peut-être un peu plus besoin qu'on appelle ce nom-là. Madame Stanquet, je vais vous souhaiter de la réussite pour ce congrès-là, souhaitant aussi qu'il soit utile pour l'avenir, quoi.
Ah, tout à fait. Et en fait, donc, ça a vraiment, cette année, l'affluence a vraiment augmenté, le nombre d'inscriptions. Donc, ça, c'est quand même
Ah oui.
très prometteur et positif. Oui.
Ça représente combien de personnes, à peu près?
Je pense que ça représente au moins 1200 personnes, ce qui
Il
est
a là.
énorme, énorme.
Eh bien, écoutez, alors, je rappelle, 22-24 mars, du 22 au 24, à l'hôtel Westin, à Montréal, et je parlais avec Brigitte Stanquet, présidente de ce 42e congrès de l'Institut Théa. Merci beaucoup, Madame Stanquet.
Merci.
Je vous en prie, bonne fin de journée. Ouais. International, non national d'abord, avec des personnes aveugles qui foulent les planches pour faire du théâtre dans la région de Moncton. La création s'appelle « Grandir dans la différence » et s'inspire de leurs histoires. L'initiative est de Blondine Arsenault, qui a toujours eu envie de faire du théâtre sans jamais oser. Elle a convaincu sans difficulté Nathalie Fougère et Thérèse Hébert à se joindre à elle pour monter la pièce. Une comédienne voyante, Rachel Bernard, et le chien guide Bellino complètent la distribution. Montrer aux gens que même avec un handicap, on est capable de fonctionner normalement. J'espère que c'est ce que les gens ressentiront. L'expérience représente tout un défi pour les trois femmes. Nathalie Fougère affirme qu'il faut vraiment avoir confiance l'une envers l'autre pour savoir comment se déplacer sur scène et ne pas se blesser. Grandir dans la différence est présenté le 25 mars prochain dans le cadre d'une soirée au profit de la Fondation Mira à la caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe. En Thaïlande, à l'international, juché sur son buffle, devrais-je dire. C'est une nouvelle qui vient des archives de TVA Nouvelles. Shogun a le sourire. Cet enfant est un autiste et il a 5 ans. Et il participe à un atelier de l'armée thaïlandaise qui se sert de ses animaux des campagnes comme d'un outil de thérapie. Le garçon vient 2 fois par semaine à Lopburi, dans le centre de la Thaïlande, pour suivre ce programme comme une vingtaine d'autres enfants souffrant du même syndrome. Balades, jeux avec des ballons sur les buffles et puis les enfants intègrent de petits ateliers artistiques. Pour les bouddhistes, tout malheur a une cause. Hein. Rien n'est fortuit, donc le sort de chacun dépend des actes qu'il a pu commettre dans ses vies antérieures. Le malheur provient d'actes malveillants commis dans le passé karmique. Alors, en Asie du Sud-Est, l'idée bouddhiste du destin karmique empêche la mise en place d'une réelle politique progressiste et laisse beaucoup de personnes handicapées dans la pauvreté ou cachées par leur famille honteuse. Alors, imaginez comment ces ateliers-là avec des buffles, ces thérapies-là, revêtent une importance capitale et sont rares en Thaïlande, comme vous pouvez l'imaginer. Et comme se réjouit cette maman qui a dû se résoudre à retirer son fils de l'école parce que les autres enfants le harcelaient littéralement. Quant au sergent-major Kajosnak, qui est responsable de la formation, il dit que la lenteur des buffles apporte la sérénité aux enfants. Il dit en plus, si les enfants s'accrochent à la queue, les buffles ne donnent pas de coups de pied comme les chevaux. Il n'y a pas d'accident. Alors bravo à cette initiative en Thaïlande. Voilà, ainsi se referment ces paractualités du jour en ce 20 mars 2017. C'était Clotilde Sey qui remercie très fort son équipe ce matin, c'est-à-dire Louise Vien, Christiane Campagna et Jean-Sébastien Laliberté. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous demain matin, 11h30.